Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique. Et c'est aussi l'un des porte-parole de la Confédération loyaliste Ensemble. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors l'actualité politique immédiate, c'est le rendez-vous qui a lieu dans quelques jours, mardi le 30 août, avec le renouvellement du président du Congrès. C'est un rendez-vous annuel, mais ça fait toujours beaucoup de bruit et ça fait beaucoup parler. Les loyalistes présentent cette fois-ci, contrairement à l'an dernier, une candidature unitaire, celle de Gilles Brial. Pourquoi lui ? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ? C'est le meilleur pour présider le Congrès, de votre point de vue ?
Déjà, c'était important pour nous de faire cette candidature unique après le psychodrome qui s'est passé l'année dernière au Congrès, où on s'est déchiré entre loyalistes avec deux candidatures qui étaient différentes. On a tenu à tirer les leçons de ça pour préparer justement les discussions de sortie institutionnelle. Et Gilles, il a toujours été une des personnalités politiques qui apprenait le plus l'union, qui a fait en sorte de essayer de rassembler les uns et les autres pour qu'on ait des candidatures uniques. Là, aux dernières élections législatives, il a naturellement laissé sa place avec beaucoup de responsabilité pour que Philippe Dunoyer soit candidat sur la première circonscription. Donc Gilles était le meilleur candidat et je crois que c'est une grande fierté d'avoir aujourd'hui, et je remercie Calédonie Ensemble et le Rassemblement d'apporter leur soutien justement à la candidature Gilles Brial.
C'est une petite compensation au fait qu'il ait renoncé à se présenter aux législatives ?
Non, c'est même pas une compensation, c'est que c'était un candidat qui était naturel justement pour le convaincre sur ses capacités à rassembler.
Alors de quel soutien est-ce qu'il est assuré ? Est-ce que l'ensemble du camp loyaliste au sens large, au-delà de votre groupe, puisqu'on rappelle qu'il y a un groupe loyaliste, un groupe Avenir en Confiance et un groupe Calédonie Ensemble, est-ce que l'ensemble des partisans du maintien dans la France vont voter pour lui mardi ?
Bon, je laisserai les uns et les autres s'exprimer, mais on a eu l'occasion de voir Thierry Santa hier qui a assuré qu'il voterait pour Gilles Brial mardi prochain. On a vu Philippe Michel ce matin qui a assuré aussi que Calédonie Ensemble voterait pour Gilles Brial. Génération, avec Nicolas Metzdorf qui fait partie du groupe loyaliste au Congrès, a naturellement dit que c'était une évidence de voter pour Gilles Brial. Donc je l'espère que ça restera comme ça et que Gilles aura les 25 voix loyalistes sur son nom mardi prochain. C'est vraiment quelque chose qui est pour nous extrêmement important. C'est un message d'unité fort qui ne doit pas justement s'arrêter à l'élection du Congrès, mais qui doit perdurer pour les discussions de sortie de l'accord de Nouméa.
Même s'il n'y a pas pour l'instant de groupe d'ensemble des loyalistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est envisagé ou est-ce que vous allez continuer avec ces trois groupes
On procède par étapes. On a déjà constitué un groupe loyaliste avec Génération, les Républicains calédoniens, le Mouvement populaire calédonien. Ce qui était prévu et ce qu'on souhaite, c'est avoir un groupe ensemble de la majorité présidentielle. Et l'idéal, et c'est ce qui avait été évoqué à un moment l'année dernière, et moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir un intergroupe de l'ensemble des loyalistes au Congrès qui rassemble les 25 élus. Dans ce moment important de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ça serait un beau signal.
Franchement, est-ce que vous pensez que Gilles Brial pourrait être élu ? On connaît la donne, hein, vous le disiez. Les indépendantistes ont 26 voix, les non-indépendantistes 25. Il y a l'éveil océanien qui est déterminant avec ces trois voix. Cette fois-ci, David, vous n'avez pas posé de conditions. L'éveil océanien n'a pas demandé une candidature unitaire des loyalistes, mais on a cru comprendre qu'ils allaient plutôt voter pour Reconquête cette fois-ci encore.
Vous savez, on a depuis maintenant quelques semaines avec d'autres élus souhaité organiser des discussions avec l'éveil océanien pour plusieurs raisons, pour dire déjà, les Calédoniens se sont prononcés trois fois non au référendum, non à l'indépendance, et donc il est normal que les loyalistes président au moins une des institutions de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit le Congrès et le gouvernement. Donc on a entamé justement ces discussions avec l'éveil océanien, mais pas prendre une présidence pour prendre une présidence. Enfin ça n'a aucun sens et ça détourne les Calédoniens encore un peu plus du monde politique. Donc on a vu Mila Kulotukumuli plusieurs fois, on a vu des représentants de l'éveil océanien plusieurs fois, sur la base d'un projet pour rétablir les comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie, pour relancer l'économie calédonienne, pour préserver le pouvoir d'achat et améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens. Donc des propositions ont été faites à Mila Kulotukumuli en ce sens, pour apporter une nouvelle donne politique dans la politique locale. Et j'ai eu un SMS il y a deux jours de ça de la part de Monsieur Tukumuli qui m'indiquait qu'il déclinait notre offre. Donc pour la quatrième fois successivement, il va élire recommittant à la présidence du Congrès. Je pense que son positionnement il est aujourd'hui très clair dans un affichage avec le candidat indépendantiste. Ce qui aurait été bien et ce qui aurait été honnête de sa part, c'est qu'au moment des élections provinciales de 2019, ils disent qu'il allait voter de manière successive pour Rock Wamitan qui a participé à l'éjection de la communauté wallisienne et foutonienne de l'Ave Maria, qui a traité Gilles Brial en congrès de mots que je ne citerai pas à l'antenne, mais lui dire de retourner chez lui à Wallis, que Wallis et Futuna couleraient si les Wallisiens retournaient justement à Wallis et Futuna. Ça aurait été bien justement de dire à ses électeurs qu'il allait faire ça. Mais bon, c'est son choix. Il est aujourd'hui dans le camp indépendantiste, c'est un fait et c'est comme ça.
Sur le fond, vous croyez qu'il partage quoi, les engagements politiques ou les engagements économiques des indépendantistes, puisqu'on sait qu'il a fait notamment, il a fait récemment une proposition de loi de réforme pour le roi, mais qui a été plutôt soutenue par les indépendantistes.
Ouais, mais c'est à lui de le dire. Moi, je constate une autre chose au-delà de son soutien pour Rock Wamitan, c'est qu'il a voté la délibération qui prévoit d'augmenter de 60 milliards les impôts sur les Calédoniens et notamment sur les plus petits. Ça a été voté suite à une proposition de Gilbert Thuyénon. Donc, Mila Kouloutou-Koumouli a fait le choix de prendre une délibération pour augmenter la fiscalité sur les patentés, pour augmenter la fiscalité sur les ménages les plus modestes. Et donc, il s'aligne aujourd'hui dans la politique menée par les indépendantistes. Et donc, il sera comptable de la politique. Moi, c'est pas à moi de juger ou de commenter l'attitude de Mila Kouloutou-Koumouli. Ce sera ses électeurs au moment venu. Et je pense qu'il aurait été bien qu'il ait le courage aussi de se présenter aux élections législatives pour voir si ses électeurs le suivent dans cette démarche. Moi, je suis convaincu que la communauté wallisienne et futunienne sont profondément attachées à la République et sont profondément attachées sur la partie économique à l'entrepreneuriat privé et pas à un matraquage fiscal comme ce qui est mené aujourd'hui par la politique indépendantiste. Donc Mila Kouloutou-Koumouli assumera devant ses électeurs la politique qui est menée aujourd'hui et au Congrès et au gouvernement.
Donc avec trois sièges, on a bien compris que depuis 2019, c'était eux qui déterminaient les majorités. Clairement, ça veut dire que pour Gilles Brial, c'est plié. Il ne pourra pas être élu mardi. Ou est-ce qu'il peut y avoir encore un rebondissement?
Ensuite, je crois que l'éveil océanien tient une conférence de presse à 13h pour expliquer leur choix. Il y a quelques temps, il disait qu'il fallait un partage des responsabilités, il fallait qu'on soit unis et au niveau du camp loyaliste pour qu'il vote pour Gilles Brial, pour le candidat loyaliste, on a fait ce travail d'unité du camp loyaliste. On verra aujourd'hui comment il justifie son choix. Mais ce qu'on remarque, c'est que la justification de son choix se porte souvent sur un partage des responsabilités pour les indépendantistes.
Et dans ce contexte, la chute du gouvernement est-elle encore envisageable? Enfin, est-ce qu'elle va servir à quelque chose si vous faites tomber le gouvernement, mais que vous vous retrouvez avec la même majorité avec le soutien de l'éveil océanien? Ça aura servi à rien.
Oui, ça sert à rien. Et ça prolonge de 18 mois de manière inutile. La chute du gouvernement, elle est souhaitable. Elle n'est pas souhaitable parce qu'on a envie, comme je le disais tout à l'heure, de récupérer une présidence du gouvernement pour se faire plaisir. On aurait tout intérêt, si on était machiavélique, à les laisser justement dans une situation qui se complique de jour en jour. Mais on considère que la politique qui est menée actuellement par le gouvernement Mapou n'est pas une bonne politique. Il n'y a pas de mesures en faveur du pouvoir d'achat des Calédoniens, pas de mesures de lutte contre l'inflation, pas de mesures de relance économique, pas de mesures de maîtrise des dépenses publiques. Mais aujourd'hui, je le laisserai indiquer sa volonté sur le gouvernement, aujourd'hui ça ne sert à rien de faire tomber le gouvernement puisque l'éveil océanien s'inscrit dans une majorité indépendantiste.
Et vous voyez comment la suite des choses? Ça veut dire qu'il faut attendre les provinciales de 2024 pour changer la majorité éventuellement?
Aujourd'hui, la majorité, elle est établie comme ça au Congrès. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, sur la partie gouvernement, c'est un gouvernement qui est collégial et malgré tout, on a des secteurs, à la fois Isabelle Chamborreau, moi, Joseph Manoté, Thierry Santa, Johan Le Courrieux, ceux qui représentent les loyalistes au sein du gouvernement. Donc, on est quand même 5 et donc on peut faire des choses au sein du gouvernement pour favoriser de l'attractivité, pour favoriser un certain nombre de choses, mais contre la majorité indépendantiste. On déposera aussi des textes au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur des propositions précises dans la ligne politique qu'on souhaite pour préservation de l'emploi, pour développer l'économie calédonienne. Et on a aussi la province sud. Et la province sud est un bras armé important aujourd'hui pour mener notre politique et ce pour quoi on a été élu. Et donc on compte bien s'en servir.
Parce qu'au Congrès, si vous faites des propositions de loi ou de textes, vous ne disposez pas de majorité, vous pensez quand même qu'il y a encore des majorités alternatives sur certains textes en fonction de certains projets que les indépendantistes ou les Vaillossaniens pourraient soutenir certains projets que vous faites?
Ouais, on essaiera jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a un moment, il y a la réalité qui va rattraper et les indépendantistes et les Vaillossaniens. Quand on va avoir des gens qui pourront plus finir le mois parce que les prix sont trop chers ou parce qu'ils auront perdu leur emploi, j'espère qu'il y a un moment, la réalité va les rattraper et ils vont se dire peut-être que nous, au boulevard Vauban, on peut faire quelque chose pour eux. Ça m'a marqué au moment des débats sur le budget supplémentaire, quand on a déposé des amendements pour favoriser le pouvoir d'achat des Calédoniens en prenant en charge une partie du prix du carburant et du prix de l'électricité, c'est été refusé par les indépendantistes et les Vaillossaniens. Comment aujourd'hui on peut refuser des mesures pour favoriser le pouvoir d'achat des Calédoniens? Je pense qu'il y a une déconnexion entre les élus indépendantistes et de l'éveil océanien et la population aujourd'hui.
Mais c'est à ça que je faisais allusion. On a bien vu les amendements que vous avez déposés dans le budget supplémentaire, enfin que les loyalistes ont déposés. Aucun n'a été adopté. Il y avait.
Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on arrêtera. C'est pas pour ça qu'on arrêtera et on continuera à faire des propositions. Ils les votent pas. Mais s'ils les votent pas, ils seront comptable de chaque emploi qui sera détruit, de chaque complication de familles qui arriveront pas à finir la fin du mois parce que le prix des céréales a été doublé, parce que le prix du carburant atteint des sommets. Donc notre travail d'élu, notre travail d'opposition aujourd'hui au sein du Congrès, au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est de faire des propositions, c'est pas que critiquer, et on accompagnera des mesures qui vont dans un sens de préservation de l'emploi et de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Mais alors, le groupe Les Loyalistes et Calédonie Ensemble ont voté contre le budget supplémentaire, mais au gouvernement, ça avait été le projet de budget avait été approuvé à l'unanimité. Vous l'aviez approuvé vous-même, Christopher Gégès.
Oui, c'est souvent le cas. J'avais indiqué lors du vote du budget supplémentaire que sur les secteurs que j'avais eu les demandes que j'avais pu réaliser sur le secteur de l'énergie ou sur le secteur de l'économie numérique, mais que le débat maintenant devait se faire au Congrès, notamment sur la partie politique de pouvoir d'achat, de lutte contre l'inflation et de relance économique. Et je pense que le débat s'est bien fait justement au Congrès et qui a justifié notre vote contre, que je soutiens à 100%.
Voilà, vous le soutenez, vous estimez que ce budget supplémentaire ne répond pas du tout aux impératifs de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui?
Non, enfin, quand vous voyez que dans ce budget supplémentaire, il y a 0 franc sur la relance économique. 0 franc sur la relance économique. 0 franc sur l'augmentation du pouvoir d'achat et de lutte contre l'inflation. C'est bien beau de faire des communiqués du gouvernement pour dire qu'on va faire des aides alimentaires, des primes carburants, ce type de mesures, quand on les finance pas. Ça s'appelle du mensonge, ça s'appelle de la falsification de propositions qu'on peut faire. On peut pas voter un budget aujourd'hui dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui est dans une situation économique extrêmement grave et qui va s'aggraver dans les prochaines semaines, dans une situation où on a des gens qui partent, ou dans une situation où les familles les plus modestes, la fin du mois est beaucoup plus en plus proche, d'avoir un budget supplémentaire qui ne reprend aucune des propositions dans ces 3 domaines.
C'est quoi l'ambiance au gouvernement aujourd'hui? On a vu l'ambiance au Congrès, mais l'ambiance au gouvernement, il y a la collégialité existe ou absolument pas? Vous êtes entendu, vous dialoguez avec les membres du gouvernement indépendantiste, où chacun est dans son coin et prépare ses textes?
Bah, l'ambiance au gouvernement, c'est qu'on se voit une fois tous les mercredis matins et que chacun fait ses mesures dans son coin. Je pense que la situation aujourd'hui imposerait qu'on ait davantage de collégialité, qu'on ait des partages. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On a des différences, c'est le principe d'un gouvernement collégial. Tout le monde convient aujourd'hui que le gouvernement collégial, il est en fin de vie, on est en fin d'accord de Nouméa, et qu'il faudra le réformer dans tous les cas pour lui donner plus d'efficacité. Mais aujourd'hui, c'est un endroit où on peut se parler. Et c'est ce qu'on a reproché aujourd'hui, depuis de longs mois à la majorité en place, c'est qu'aujourd'hui, on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'il y a un fait majoritaire, indépendantiste, qui prend des mesures, même s'ils savent qu'ils ont tort. On le voit d'ailleurs en certaines séances du gouvernement, continue dans cette ligne de manière idéologique. Et c'est bien dommage, je crois que la Calédonie a un potentiel exceptionnel. Vous receviez hier sur votre antenne le patron de la BRED qui disait que la Nouvelle-Calédonie avait un potentiel de développement en matière de diversification économique, en matière humaine, en matière de nickel, de tourisme, qu'on n'utilise pas. On voit nos voisins de Polynésie qui ont des hôtels qui sont remplis, la Fidji qui a exactement la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, on gâche notre potentiel avec les mesures qui sont mises en place.
Pour revenir au Congrès, le groupe Les Loyalistes a annoncé la création d'une commission d'enquête au Congrès pour faire la transparence sur la défiscalisation du groupe Biscochoc. Vous qui vous présentez comme des défenseurs de la libre entreprise, le développement de la Nouvelle-Calédonie, là en l'occurrence il y a une nouvelle filière qui semble prometteuse, celle du chocolat. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'entraver le développement de cette société?
Pour plusieurs raisons. J'ai entendu le patron de Biscochoc sur votre antenne à l'instant qui pense que c'est une attaque contre son entreprise.
Il était très ému, oui, on l'a entendu.
Oui, c'est pas du tout une attaque contre son entreprise ou contre lui-même, mais vous savez, quand on demande des protections de marché, c'est-à-dire qu'on contraint le choix des Calédoniens, quand on demande une défiscalisation, qui est une défiscalisation record, de l'ordre de 2,7 milliards. Ça s'est jamais passé au gouvernement, mis à part les hôtels. C'est normal que les élus soient informés. Et c'est normal qu'on puisse avoir un avis sur la question. Et c'est normal qu'il y ait des contreparties quand il y a des aides qui sont accordées, à la fois en restriction de marché et à la fois en défiscalisation. Et là, sur la défiscalisation, qui est l'ordre de plus d'un milliard entre la défiscalisation nationale et la défiscalisation locale, il n'y a pas d'engagement de baisse de prix ou sur une gamme très réduite de l'ordre de moins 3%. Sur la création d'emplois, on est 6 fois supérieur à la moyenne des défiscalisations accordées jusqu'à présent sur le coût de l'emploi. 120 millions par emploi pour 6 emplois créés. Donc je pense qu'il y a quand même, c'est normal qu'on puisse s'y intéresser. Et la commission d'enquête, elle est là aussi pour faire pour regarder un certain nombre de choses qui nous paraissent pas claires. Le Congrès a été saisi par le gouvernement parce que c'est un dossier qui dépasse le seuil d'octroi du gouvernement naturel. Et le membre du gouvernement en charge de la fiscalité, au moins il a été honnête, il nous l'a dit en séance du gouvernement, je n'ai pas transmis les notes de la direction des affaires économiques qui avait mis un avis très réservé sur le sujet aux élus du Congrès parce qu'ils n'ont pas à voir ces éléments-là. Ben, on dit si les élus du Congrès, les élus du Congrès, ils ont à avoir justement ces éléments-là pour rendre un avis qui est éclairé sur la situation quand on accorde 1 milliard de défiscalisation à une seule société et qu'on vient de refuser au budget supplémentaire des aides au secteur agricole, des aides en matière de pouvoir d'achat, des aides pour la relance économique, surtout quand le membre du gouvernement concerné et à la fois participant dans la SEM de Canala, à la fois participant comme président du pouvoir autonome et comme membre du gouvernement en charge de la fiscalité. Donc je pense qu'il y a un moment, quand on accorde plus d'un milliard de défiscalisation, qu'on a des protections de marché, qu'on doit avoir de la transparence et qu'on mette en place justement les différents dispositifs. Mais on l'a indiqué en séance du gouvernement, on souhaitait le retrait du texte. On souhaitait pas voter contre. On souhaitait justement l'amender, que le projet soit réduit au vu de le contexte actuel, qu'on puisse avoir plus de création d'emplois, qu'on puisse avoir plus de choix pour les Calédoniens. Et à ce moment-là, on aurait pu évoquer ça. Donc on déposera une délibération de commission d'enquête, comme c'est prévu dans le règlement intérieur du Congrès. Il n'y a rien de nouveau dans ça pour qu'on puisse avoir la transparence sur ça et que les deniers publics soient bien utilisés.
C'est pas une attaque directe donc contre le chef d'entreprise. Vous croyez la possibilité du développement d'une filière chocolat?
On aurait pu le faire peut-être avant et pas le découvrir juste au moment où on dépose le dossier de défiscalisation. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on puisse avoir un audit de la rétrocession des terres coutumières sur la côte Est, qui était des terres extrêmement agricoles par le passé, sans aide à l'époque. Et quand ça a été rétrocédé en terres coutumières, toutes ces exploitations se sont arrêtées. Ça aurait été bien d'avoir un audit sur cette partie-là.
En attendant, quel est le calendrier politique des prochaines semaines? Donc on a bien compris que, a priori, ça va être compliqué que les royalistes récupèrent le Congrès, compliqué également que le gouvernement tombe. On attend le ministre délégué aux Outre-mer. Il doit venir quand? Vous avez une date?
Il vient de mémoire entre le 12 et 15 septembre pour préparer un hypothétique comité des signataires fin septembre, début octobre. Nous, on va affirmer à Jean-François Carinco, déjà ce sera un plaisir de l'accueillir en Nouvelle-Calédonie, plusieurs choses. Hein, c'est nos attentes sur le comité des signataires et ça, il faut qu'on ait la capacité déjà de s'entendre au niveau du groupe Les Loyalistes, mais de manière des loyalistes de manière générale avec le Rassemblement et Calédonie Ensemble pour qu'on porte une seule voix au ministre. La première, c'est un, l'accord de Nouméa, il est terminé. L'accord de Nouméa, il est fini. Il y a eu les 3 référendums. Ils peuvent le contester, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'accord de Nouméa, il est terminé. Le 3e référendum a été validé. 2, que le corps électoral doit être réouvert. Cette période insupportable du fait qu'il y ait des milliers de Calédoniens qui a eu le droit de payer des impôts, mais qui n'a pas pu participer au vote, ça doit se terminer, et on doit réouvrir le corps électoral, et on doit maintenant avoir un projet de long terme pour la Calédonie, sur un développement économique, sur un projet d'avenir, justement, pour les jeunes Calédoniens. Par contre, il sera inconcevable pour nous de parler d'indépendance puisque ce choix a été fait de manière négative par les Calédoniens par trois fois.
Est-ce que vous pensez que Jean-François Carenco va arriver à convaincre les indépendants de venir autour de la table? Est-ce que c'est un peu ce que vous attendez de lui?
C'est son job. C'est son job. Je crois qu'il a été aussi choisi pour ça. Je crois que Jean-François Carenco a des affinités avec un certain nombre de partenaires politiques au niveau local et au niveau indépendantiste. Et donc, on espère qu'il ramènera tout le monde autour de la table. On n'a pas de problème au niveau des loyalistes pour qu'il puisse y avoir des bilatérales comme c'est souhaité par les indépendantistes avec l'État. Des bilatérales, nous aussi on en a avec l'État pour discuter d'un certain nombre de sujets, mais il ne faut pas que ces bilatérales soient des négociations. Donc c'est pour ramener des gens, oui, mais pas pour négocier.
Comité initiateur fin septembre, début octobre, pour quoi faire en fait? C'est pour débloquer, essayer de débloquer les choses, c'est pour clôturer vraiment l'accord de Nouméa, c'est pour lancer déjà les discussions sur l'avenir?
Les deux. Pour déjà, pour clôturer l'accord de Nouméa, c'est ce que j'ai pu indiquer. Nous, ça sera un des points importants sur ce comité des signataires. Cette période, elle est terminée. Et donc, il faudra qu'on puisse, au cours de ce comité des signataires, ouvrir un nouveau comité, un nouveau format, et définir une nouvelle méthode ensemble pour ouvrir les discussions et qu'on puisse, au cours de l'année 2023, avoir un référendum de projet, comme ça avait été indiqué par Sébastien Lecornu.
Le calendrier de juin 2023 est toujours tenable, selon vous?
En tout cas, c'est notre calendrier.
Parce que tous les calendriers sont un peu bouleversés. Vous vouliez également la Confédération Ensemble, vous aviez annoncé, pendant la campagne législative, je crois, que vous vouliez dans un premier temps voir tous les loyalistes pour essayer de travailler sur un projet. Vous avez pu commencer ce travail-là ou vous avez été pris par le reste et que c'est pas encore commencé?
On a été pris par beaucoup de choses, mais enfin le dialogue est bien là. Je vous ai dit, on s'est vu hier avec Thierry Santa et Johan Lecourieux et Gilles Brial pour évoquer ça. On a vu Philippe Michel ce matin. On a des échanges de manière régulière. On n'a pas d'autre choix que d'arriver de manière unie pour les discussions. Et vous savez, c'est le choix fort qu'on a fait pendant les législatives. Hein. C'était pas facile quand Sonia Backès dit on va soutenir Nicolas Metzdorf et Philippe Dunoyer dans l'intérêt justement d'avoir un camp loyaliste qui est uni pour les discussions. Nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse arriver, que ça soit à Paris ou à Nouméa, avec un camp loyaliste qui est très fort, un camp loyaliste qui est soudé, et surtout un camp loyaliste qui défend le choix des Calédoniens, qui a été exprimé par trois fois de manière très claire, malgré les boulets aux pieds qu'on a pu avoir sur le corps électoral.
Sur le projet lui-même, il y a déjà des pistes qui se dégagent ou c'est trop tôt?
Non, il y a des, je vous dis, la première des pistes, c'est respecter le choix qui a été fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation...
Le maintien dans la France, oui, mais est-ce qu'il y a quand même des formes de statut
on n'est pas dans la situation de 1998 où on est dans une situation où on évite le référendum qui est prévu par les accords de Matignon. Là, on est dans une situation où les Calédoniens ont dit on est dans la République, on reste dans la République, et donc le projet que vous devez construire, vous, élus Calédoniens, s'inscrit dans la République. Ensuite, il y a les fondamentaux, sur qui va voter en Nouvelle-Calédonie et comment, sur le déséquilibre qui peut y avoir au Congrès qui est responsable aujourd'hui de la situation que malgré qu'on soit majoritaire les loyalistes en Calédonie, on est plus d'élus indépendantistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des fondamentaux qui vont être abordés dans ce cadre-là. Et ensuite il y a la partie vraiment projet institutionnel, comment on a des institutions qui fonctionnent. Est-ce que le gouvernement doit rester collégial? Moi je pense que non. Est-ce que le Congrès doit rester à géométrie variable au niveau de la représentation? On pense que non. Donc il y a une efficience institutionnelle à reconstruire. Et enfin, un projet économique et social à aborder. Je crois que c'est ce qui concerne un peu plus les Calédoniens et ce qui les intéresse réellement.
L'État doit être partie prenante, bien sûr, dans ces discussions. Pour vous, il doit être... C'est une discussion à trois.
Oui, c'est une discussion à trois.
Et dans le contexte politique actuel, alors je vais vous citer Emmanuel Macron, hein, qui parlait en début de Conseil des ministres de la fin de l'abondance, de l'insouciance et de l'évidence quand on voit les crises qui succèdent. Est-ce que la Calédonie peut encore être, sinon une priorité, du moins un sujet d'actualité à Paris pour le gouvernement national?
Au moment du plus fort du Covid, où Emmanuel Macron était sur le front pour défendre la France de cette crise sanitaire et même au moment des Gilets jaunes précédemment, on a toujours eu une attention très particulière de la part du chef de l'État sur la question de la Nouvelle-Calédonie qui fait une priorité de son deuxième mandat de la solution institutionnelle calédonienne. Donc j'ai aucun doute sur du fait que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Jean-François Carenco s'investiront pleinement, Elisabeth Borne, s'investiront pleinement dans le dossier calédonien. Mais dans ce que dit Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance, sur où il va falloir serrer la ceinture sur beaucoup de choses. On est dans un contexte mondial qui est extrêmement compliqué et il va falloir faire des efforts. Et quand je vous dis qu'il faut qu'on arrive aussi en Nouvelle-Calédonie à maîtriser nos dépenses publiques, à réduire les coûts, à faire les plus petites économies possibles et à relancer notre machine économique et à redevenir attractif, c'est dans cette logique-là aussi d'avoir une Nouvelle-Calédonie qui fait face à son autonomie, mais en étant accompagné par la mère patrie.
Alors, Christopher Gégès, vous êtes aussi en charge au gouvernement, notamment de la transition énergétique. Dans le contexte actuel d'augmentation du prix des carburants et des énergies en général, c'est un secteur vraiment stratégique.
C'est un secteur extrêmement stratégique et c'est un secteur qui me passionne. On a aujourd'hui une nécessité d'améliorer notre mix énergétique et de réduire notre dépendance en matière d'énergie fossile. Aujourd'hui, on était à 80% d'énergie fossile en Nouvelle-Calédonie pour 20% d'énergie renouvelable. Notre volonté à l'horizon 2030, c'est de passer à 70% d'énergie renouvelable et 30% d'énergie fossile ou quasi fossile en éliminant toutes les centrales au charbon. Et on avance très bien là-dedans. On sera à 100% en énergie renouvelable pour la distribution publique l'année prochaine. 100% sur la distribution publique l'année prochaine et on sera dans les 70% à l'horizon 2030 pour l'ensemble du secteur avec le secteur métallurgie. On a eu mercredi une séance du gouvernement où on a agréé 225 mégawatts et dont deux fermes qui sont de plus de 60 mégawatts et qui sont parmi les plus grandes fermes de France. Je crois qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie elle peut être fière de son développement en matière de transition énergétique, à la fois pour le secteur métallurgie et on améliore justement notre environnement, mais ça a aussi un ruissellement sur les autres secteurs puisque ce matin j'étais avec les différents bailleurs sociaux pour qu'on puisse installer des panneaux photovoltaïques en toiture et réduire la facture d'électricité des Calédoniens. Donc un objectif qui est multisectoriel et qui permettra d'être fier d'avoir une politique environnementale extrêmement volontariste, mais aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens.
Ce mix énergétique, pour l'instant, il y a beaucoup de photovoltaïque, mais la volonté, c'est de diversifier. Il y a de l'éolien, il y a de l'hydrogène. Vous explorez toutes les pistes aujourd'hui ?
Oui, on fait beaucoup de photovoltaïque parce que c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui et c'est ce qui est le plus rentable. On a agréé malgré tout une ferme de 30 mégawatts d'éolien dans le sud très très récemment et on a mis en service une centrale hydroélectrique sur la côte est il y a quelques semaines de ça. Le vrai enjeu maintenant, au-delà de ces différentes productions, ça va être le stockage. On a lancé un appel à projet sur des batteries pour stocker cette énergie et j'aurai l'occasion d'aller à Paris du 25 septembre au 4 octobre pour notamment sur du financement d'une STEP, qui est une station par pompage qui permettra de stocker l'énergie notamment destinée au secteur métallurgique et qui permettra de donner du travail aussi au BTP calédonien qui en a bien besoin.
C'est pas dangereux d'accélérer comme ça la transition énergétique? C'est un domaine dans lequel on fait un peu d'exploration là pour l'instant. Est-ce qu'on risque pas un peu d'essuyer les plâtres en étant aussi volontariste dans ce secteur?
Non, parce que vous savez, ça fait 10 ans, moi j'étais collaborateur en charge de l'énergie de Sonia Backès quand elle était en charge de l'énergie au gouvernement en 2012, où on avait fait le choix d'agréer des projets qui étaient à 26 francs du kilowattheure et c'était un pari là volontariste et on prenait un risque à ce moment-là que ça marche pas parce que ça coûtait au système électrique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est à des projets à 3, 4, 5 francs du kilowattheure et par comparaison, les projets qu'on a autorisés mercredi dernier font 1 milliard 200 millions d'économies pour le système électrique. Donc ça va favoriser le système électrique calédonien et on est sur une technologie qui est qui est avancé, qui est connu et qui risque pas grand-chose. On travaille parallèlement avec la province sud sur une filière de recyclage des panneaux photovoltaïques et des batteries pour qu'il y ait une chaîne complète de décarbonation. Par contre, sur les nouvelles technologies, on souhaite pas passer à côté. Je pense notamment à l'hydrogène et on avait eu l'occasion de faire une émission sur votre antenne où on souhaite procéder par projet pilote. Et donc, on lance des appels à projets sur des projets pilotes. Ça marche, c'est bien. On sera dans le coup. Ça marche pas, ben on sera pas dans le coup, mais on aura au moins essayé.
La voiture électrique en Nouvelle-Calédonie, vous y croyez ?
Oui, j'y crois. Je crois aux véhicules propres. Au-delà de la voiture électrique, la voiture électrique dans un premier temps, il y aura des véhicules à l'hydrogène ou des véhicules au méthanol. Mais là aussi, avant de développer la voiture électrique, il fallait améliorer notre mix énergétique. C'est-à-dire que c'est bien d'alimenter des voitures électriques, mais si c'est produit par des centrales au charbon, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on a souhaité d'abord mettre les énergies renouvelables qui allaient avec. Donc on a lancé un appel à projet pour installer des bornes un peu partout, parce que c'était la deuxième étape avant d'avoir les voitures, pour qu'on puisse pas tomber en panne quand on fait un tour de Calédonie. Là, on va agir sur le prix, parce que ça coûte encore un peu trop cher. Mais à titre d'exemple, sur une voiture classique qui fait aujourd'hui un plein de 6 ou 7 francs, avec le tarif qu'on a mis en place sur ces bornes-là, ça sera 600 francs de recharge. Donc il y a quand même un intérêt aussi financier pour les Calédoniens.
Et vous avez des retours de la population ? Les Calédoniens, ils sont prêts à faire ce passage à...
C'est compliqué. C'est compliqué et c'est notre rôle, c'est d'expliquer, c'est changer les mentalités en termes de véhicules en Nouvelle-Calédonie. C'est un sacré challenge, mais je pense que c'est une nécessité et ça va se faire au fur et à mesure. En Europe, ils ont annoncé la fin des véhicules thermiques à l'horizon 2030. En Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup trop tôt pour arriver à ça, et peut-être que l'Europe changera cet objectif-là. Mais on souhaite pas faire la transition énergétique contre les Calédoniens. C'est pour ça qu'on n'est pas sur des mesures de malus. On est toujours sur des mesures de bonus pour accompagner ceux qui le souhaitent et que ça montre l'exemple derrière.
Un mot sur l'arrivée de la CAT, la centrale à côté temporaire de la SLN. Elle est attendue dans les prochains jours, la semaine prochaine.
Jeudi prochain.
C'est une bonne nouvelle?
Bah, c'était une nécessité déjà pour assurer l'alimentation électrique de la SLN. La centrale actuelle devenait dangereuse. Il y a malheureusement eu un mort sur place et ça commençait à être extrêmement compliqué. Par contre, le T dans la centrale accostée est importante, donc c'est temporaire. Et c'est bien le sens de l'accord cadre qu'on a signé avec la SLN, Pronier Ressources, la province suédoise et Enercal, pour justement faire ce déploiement extrêmement rapide d'énergie renouvelable pour alimenter le secteur métallurgique et que la CAT puisse retourner en Turquie dans les 3 ans. On a fait le choix d'améliorer aussi la réactivité sur ces centrales photovoltaïques. Avant, il fallait des appels à projets longs qui duraient un an et demi et on les aurait eu dans 4-5 ans. Là, on passe sur de l'agrément direct, on gagne en simplification administrative et donc on tiendra nos engagements.
Beaucoup de gros dossiers, beaucoup de rendez-vous politiques aussi. Le prochain, c'est donc mardi avec l'élection du président du Congrès. Merci Christopher Gigès d'avoir accepté notre invitation sur Magazine Transparence.
Merci à vous.